Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle Pour la dignité. Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3.
Le moment de retrouver notre émission mensuelle Pour la dignité. Et bonjour Régis, bienvenue à Fréquence Mistral.
Merci. Bonjour Odile et bonjour à tous. Voilà, nous reprenons notre émission après l'avoir un peu interrompue à cause de cette pandémie. Alors aujourd'hui, bien sûr, au sommaire, on va revenir sur les violences policières et la loi sur la sécurité globale. On parlera des armes françaises utilisées au Liban, de l'Arabie Saoudite et cette grande mascarade de la place des femmes au travail. Et puis on vous parlera des 10 jours pour signer, puisque c'est notre opération mondiale qui va commencer le 4 décembre. Donc on vous présentera un petit peu les cas. Voilà, donc on va donc commencer par parler de violences policières. Alors, en préalable, je voudrais dire qu'à Amnesty International, depuis sa création, nous sommes opposés à la violence. En ce sens que nos premières actions ont été tournées vers le prisonnier d'opinion et la défense de ce prisonnier d'opinion. C'est-à-dire, le prisonnier d'opinion, c'était et c'est toujours celui qui se trouve en prison uniquement pour avoir exprimé son opinion, sans avoir eu recours à la violence et sans l'avoir promu. Voilà. C'est ces personnes dont Amnesty s'est occupé en premier. Les personnes prisonnières uniquement pour ses opinions, pour avoir exprimé leur opinion de façon non violente. Donc c'est une opposition depuis toujours à la violence. Et ce qu'on a vu, bien sûr, on ne va pas y revenir longtemps dessus, mais l'évacuation de ce camp de migrants avec la violence inadmissible, voir des tentes tirées avec les personnes à l'intérieur. Où est la dignité de l'homme sur ces gens qui ont déjà tellement souffert, qui ont fui la guerre, la misère? C'était inadmissible. Le passage à tabac ensuite de ce producteur, Michel Zecler, je ne vais pas y revenir non plus, ça a indigné tout le monde. De même, l'image de ce policier tabassé à la suite des manifestations, justement, contre les violences policières, c'est aussi indigne. Donc voilà, il y a des actions à faire, il faut faire quelque chose. Il y a eu un rassemblement à Digne pour protester contre ces violences policières devant le siège de notre député. Et à ce propos, je voudrais dire qu'on a écrit... Amnesty, on l'a écrit aux députés justement avant que cette loi soit votée pour justement les alerter. Hein. Et je suis très heureux que notre député n'ait pas voté cette loi parce que vraiment les alerter notamment sur l'article 24 hein, qui a tant fait parler de cette proposition de loi qui prévoit de sanctionner très lourdement puisque c'est jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d'amende. Le fait de diffuser des vidéos dans lesquelles des policiers et des gendarmes seraient identifiables, dans le but qu'ils soient portés atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Et dans les faits, cette disposition ouvre la voie à des interprétations divergentes et arbitraires, notamment la notion d'intégrité psychique. Si elle est adoptée, elle est adoptée. Elle va entraver le travail des journalistes et la possibilité pour les citoyens d'apporter des preuves de violation des droits humains. Avec une telle disposition, disparaît la possibilité de faire des vidéos en direct par peur de la sanction, qui s'ajoute au risque de censure par les plateformes de réseaux sociaux. Cela constituera un risque majeur pour la liberté d'informer, corollaire essentiel du droit à la liberté d'expression. Toute restriction au droit de diffuser des images des forces de l'ordre doit poursuivre un objectif légitime et être strictement nécessaire et proportionné. Si dans certaines situations, l'interdiction de filmer et diffuser peut être légitime, par exemple lors d'une opération antiterroriste, les entraves à la liberté d'informer contenues dans ce projet de loi conduisent à ce que les violations des droits humains ne soient pas documentées. Ceci pourrait contribuer à une culture de l'impunité qui porte finalement atteinte à l'image des forces de l'ordre et contribue à saper le lien de confiance nécessaire entre les forces de l'ordre et la population. Voilà, on a aussi beaucoup critiqué cette loi de sécurité globale parce qu'elle élargit la possibilité pour la police d'avoir recours aux caméras piétons ou aux caméras aéroportées, notamment les drones équipés de caméras. Amnesty recommande la plus grande prudence sur le port par les forces de l'ordre de caméras piétons. Il faut prendre en compte les risques pour les droits fondamentaux, en particulier le droit à la vie privée, le droit à la dignité des personnes filmées et le droit à la liberté de réunion. L'article 21 de cette loi ouvre la possibilité de recourir aux caméras piétons pour l'information du public, sans précision sur la façon dont le droit à la vie privée des personnes filmées sera préservé dans le cas où ces images seraient diffusées publiquement. Il permettrait également aux agents d'accéder directement aux enregistrements, ce qui leur a été interdit jusque-là. Cela pourrait s'avérer problématique en cas d'enquête sur les pratiques illégales par les forces de l'ordre. Par ailleurs, si ces caméras peuvent avoir l'intérêt de réduire le recours à la force, les enregistrements peuvent aussi être biaisés et sélectifs si le choix de les démarrer ou de les arrêter revient à l'agent, bien entendu. Voilà, et l'article 22 donc, ouvre la possibilité de caméras aéroportées, notamment les drones, dans pratiquement tous les contextes, y compris celui des manifestations. L'information systématique du public n'est pas garantie, puisqu'il est prévu que les autorités puissent s'en passer lorsque les circonstances l'interdisent, le motif vague permettant une large interprétation. Le fait de risquer d'être filmé peut dissuader des personnes de participer à des rassemblements pacifiques, notamment si elles craignent des poursuites ultérieures pour le simple fait d'y avoir participé. Ce qui pourrait être le cas en France, où Amnesty International a documenté des situations où des manifestants rassemblés pour défendre les droits des soignants, par exemple, ont reçu des amendes après avoir été identifiés par des caméras de surveillance. Ils ont été sanctionnés pour participation à une manifestation interdite, alors même que cette interdiction prise par le gouvernement a ensuite été jugée illégale, car disproportionnée. Voilà, donc on s'est donc opposé à cette loi. On n'a pas été les seuls, hein, puisque je peux vous lire par exemple l'intervention de Claire Hédon, qui est la défenseuse des droits, et qui dit « Cet article n'est pas acceptable ». Elle a rappelé que les vidéos tournées lors d'interventions des forces de l'ordre sont très utiles aux défenseurs des droits quand il y a des dérapages des forces de sécurité. Si on veut que notre population retrouve confiance en sa police, ce qui est absolument indispensable, il faut qu'on le reconnaisse et qu'il y ait sanction. Lorsque de tels cas sont identifiés, ajoute-t-elle. La défenseure des droits s'est également élevée contre les déclarations du ministre de l'Intérieur qui a invité les journalistes à prévenir les autorités avant de couvrir une manifestation. Il s'agit d'une atteinte à la liberté de la presse, absolument, sans aucun doute, a-t-elle dit. Il est important que la presse puisse continuer à faire son travail et jusqu'au bout des manifestations, a-t-elle ajouté, après l'interpellation de plusieurs journalistes mardi à Paris, à la fin d'un rassemblement contre la loi sécurité globale. Voilà, donc, on espère que cette loi va être revue et amendée ou supprimée. Voilà, donc, dans ce monde de violence, j'ai choisi de vous faire écouter une chanson qui a été reprise. C'est une chanson de Bourvil, au départ, qui s'appelle « La tendresse », qui a été chantée notamment par Marie Laforêt. Mais là, elle a été reprise pendant le confinement par tout un ensemble de personnes qui ont repris, voilà, ça s'appelle Symphonie confinée, hein, c'était lors du premier confinement, et on les écoute.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup.
mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien.
Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut laisser des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 long.
Felice.
Se marcia la tristezza al verlo así vivir, ay Dios,
Dios mío, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs, des torrents de tendresse, pour que règne l'amour.
Un nouveau monde.
Oui, hein, dans ce... espérons. Et puis c'est vrai que dans ce monde confiné, la tendresse est tellement importante et combien de personnes se sentent seules et c'est difficile. Voilà, donc cette chanson pour rappeler l'importance de la tendresse. Voilà, alors un peu moins tendre, hein, je vais vous parler d'un autre sujet. Voilà, ce sont les armes françaises utilisées au Liban. On demande des comptes. Vous savez, j'en ai parlé déjà dans, plusieurs fois dans mes émissions. Amnesty International mène une campagne qui s'appelle « Silence en armes » et qui est tournée vers la France, qui est le troisième marchand d'armes au monde, parce que la France a signé le traité sur le commerce des armes. Et ce traité stipule qu'on ne doit pas vendre des armes à un pays qui peut les utiliser pour contre sa population ou pour commettre des crimes de guerre lors d'un conflit, c'est-à-dire crimes de guerre, vous avez enrôlement d'enfants soldats, bombardement de quartiers civils, bombardement d'hôpitaux, d'écoles. Voilà. Alors on a déjà manifesté notre opposition par rapport aux ventes d'armes qui sont faites à l'Arabie Saoudite, qui mènent une guerre terrible au Yémen. Une guerre qui entraîne un risque de famine catastrophique. On a aussi parlé des armes vendues à l'Égypte, hein, qui a réprimé sa population qui manifestait pacifiquement pour la démocratie. Et là, dernièrement, au Liban, il y a eu une répression violente des manifestations. Les forces de l'ordre ont utilisé des lance-grenades, des balles en caoutchouc ou encore des grenades lacrymogènes, des armes bien souvent d'origine française. Alors on nous demande d'interpeller nos élus sur ce sujet. Alors c'est suite à l'explosion mortelle dans le port de Beyrouth, le 4 août 2020. Il y a des milliers de Libanais qui sont descendus dans les rues pour exiger justice. La réponse des autorités était sanglante. Plus de 230 personnes blessées en un jour. Au cœur de ces manifestations, nous avons retrouvé du matériel de maintien de l'ordre français. Encore une fois, des armes françaises sont utilisées dans le cadre de manifestations violemment réprimées dans un pays étranger. C'est inacceptable. Alors voilà, si vous allez sur le site d'amnesty.fr, vous pouvez interpeller le député, vos députés, pour qu'ils demandent des comptes au président de la République. Voilà, vous avez la lettre qui est faite, vous pouvez lui envoyer ce message. Voilà, alors il y a eu une petite avancée depuis qu'on mène cette campagne, puisque le Parlement va être informé un peu plus, de façon un peu plus sérieuse, sur les ventes d'armes. Donc on voit que notre action finit par porter. Mais voilà, il faut arriver à beaucoup plus de transparence et puis arrêter de vendre des armes à certains pays. Voilà, on va écouter maintenant une chanson de Pierre Perret, qui nous alerte, qui nous demande de nous tenir en alerte. La bête est revenue.
Sait-on pourquoi un matin, cette bête s'est réveillée au milieu de pantins, qu'elle a tous émerveillé en proclamant partout haut et fort, nous mettrons l'étranger dehors. Puis cette ogresse aguicheuse fit des clones imitatifs, leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leurs dictats xénophobes, on chasserait tous les microbes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond, Bertolt Brecht nous l'a dit, il connaissait la chanson, celle-là même qu'Hitler a tant aimé, c'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les Juifs encore une fois que ces dangereux Ariens grandiront comme un épouvantail dans tout leur sinistre éventail. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur dont les 100 000 bouches crache le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu, petit, je l'ai vu, la bête est revenue.
Voilà. Chanson encore de Pierre Perret.
Oui, toujours d'actualité. Hein. Bien qu'elle ait quelques années, et hélas, si vous écoutez bien les paroles. Voilà, alors maintenant, on va en Arabie Saoudite. Vous savez que s'est tenu là-bas le sommet du B20, qui est présidé par l'Arabie Saoudite. Il s'est tenu en distanciel, le 26 et 27 octobre. Et nous rappelons aux dirigeants économiques que de nombreuses défenseurs des droits des femmes, parmi les plus courageuses du pays, languissent en prison pour avoir osé demander des réformes. Nous demandons aux grands dirigeants d'entreprise de montrer qu'ils accordent autant d'importance aux droits humains qu'aux opportunités commerciales. L'Arabie Saoudite a déployé beaucoup d'efforts afin de changer son image, lançant des slogans sur la parité et assurant qu'elle était prête pour le changement. Pendant ce temps, les véritables agents du changement en Arabie Saoudite sont derrière les barreaux, explique Lynn Malouf, notre directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Les membres du B20 ne doivent pas se laisser abuser par cette hypocrisie. Si l'Arabie Saoudite vante des réformes récentes, telles que l'assouplissement des restrictions sociales et du système de tutelle, afin d'obtenir l'approbation des puissances au sein du B20, les militantes en faveur des droits des femmes sont toujours maintenues en détention. L'Arabie Saoudite communique aisément sur le fait que cette année, 33% des délégués envoyés au B20 étaient des femmes, la proportion la plus élevée à ce jour. Le site internet dédié au B20 affirme même que la place des femmes dans les entreprises sera la thématique phare de la présidence saoudienne et en fait l'une des questions prioritaires du sommet. Mais ces effets d'annonce ne sont que les points culminants d'une opération agressive et cynique de relations publiques menée sous l'égide du prince héritier Mohamed Ben Salman. Après l'annonce du plan relatif à Vision 2030 promettant l'égalité des chances en Arabie Saoudite, les femmes se sont vues accorder le droit de conduire en juin 2018. Une avancée qui offre un minimum de liberté et d'indépendance aux femmes et permet de faire un pas en avant vers l'égalité des opportunités d'emploi. Mais en parallèle, quelques semaines à peine avant l'annonce de ces changements, les autorités ont mené une terrible campagne de répression contre les défenseurs des droits humains et ont arrêté un grand nombre de personnes mobilisées en faveur du droit des femmes de conduire. 13 défenseurs des droits des femmes doivent encore être jugés pour leur militantisme. Plusieurs d'entre elles sont accusées d'avoir contacté des médias étrangers ou des organisations internationales, y compris la nôtre. À titre d'exemple, je peux vous donner le cas de Loujain Al-Atloul. C'est une défenseure des droits humains de 31 ans, le 25 novembre. Le juge a demandé que le cas de Loujain soit transféré devant le tribunal pénal spécial. L'audience de Loujain s'est déroulée seulement 3 jours après la clôture du G20. La famille de Loujain n'en a été informée que la veille, ce qui lui a laissé très peu de temps pour préparer sa défense. Les autorités saoudiennes auraient pu décider de mettre fin au cauchemar de cette courageuse défenseure des droits humains qui croupit derrière les barreaux depuis plus de 2 ans. Au lieu de cela, ils ont transféré son dossier devant le tribunal spécial, pénal spécial. Et ce tribunal, il est utilisé par les autorités saoudiennes pour réduire systématiquement l'opposition au silence. Des procès qui manquent cruellement d'équité y ont lieu et des lourdes peines allant jusqu'à la peine de mort y sont souvent promulguées. Voilà, et dans la présentation des 10 cas cette année de notre campagne et 10 jours pour signer, il y aura le cas d'une autre défenseure des droits humains d'Arabie Saoudite. Voilà, on va maintenant écouter un groupe qui s'appelle les ambassadeurs de la liberté d'expression, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, le droit de vivre.
Pourquoi Oluwani Kani fait Arawa? te wanye ni ode gudo brinu konanyo benglu
toi tu crois que c'est tu es qui va changer ta vie tu fais couler mon sang et tu espères son paradis j'ai droit à la différence tu ne tueras point dans tous les livres saints
en période de crise de bise de bise de jeez on bise on les brise ceux qui disent qu'on a tout faux et qui nous diabolisent quand on refuse on dit non ils n'auront pas de prise pour nous la peur c'est la goutte d'eau sur le pare-brise.
How many more must die, how many more displaced, how many cheapo girls must they sell a sex slaves, how many of our daughters turn to suicide bombers before we realize we must wake from our slumber.
Nous avons le droit de vivre et de nous épanouir, laissez-nous parler.
Chèque apocalyptique au dessin funeste, assassin jusqu'au bouddhiste, imbécile que rien n'arrête, égorgeur extrémiste avec la haine qui les habite, autour de nous qui cohabitent. We are to fight it.
Nous avons le droit de vivre et de nous épanouir. Laissez-nous parler.
Cerveau vide, recrutant des Jamaas et des rites, format des jeunes qui chient. Activistes, nous on lutte, l'intolérance, elle se refit. Omri se lève, immanigable pour les kamites.
Tebe filo wadanu jero. Tebe filo wadanu jero. Tebe filo wadanu jero. Wadanu jero. Wadanu bombardé.
Je suis Gao Tomotou qui est à l'étape encore. Je suis le Mali qui a mal dans son corps au nord. Victime des mines qui exterminent au nom du Mujahideen. L'industrie de l'enlèvement, à qui profite ces crimes?
L'extrémisme est une hantise avec laquelle on nous agresse. C'est la course au pouvoir qui nous cause toutes ces détresses. Il deal avec le diable qui crée la psychose, puis nous mate. On voit des crimes, on vit l'horreur ici, c'est la tourmente.
Nous avons le droit de vivre et de nous épanouir. Laissez-nous parler.
Voilà. Maintenant que nous allons parler des 10 jours pour signer. Alors, l'histoire de cette campagne commence en 2001, en Pologne, où des militants d'Amnesty International de Pologne décident d'écrire en 24 heures le maximum de lettres aux autorités responsables de violations subies par des hommes et des femmes dans ce monde. Cette mobilisation a donné naissance à notre campagne mondiale autour du 10 décembre. Journée internationale des droits de l'homme, puisque c'est le 10 décembre 1948 qu'a été signée à l'ONU la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur laquelle nous nous appuyons. Désormais, chaque année, des millions de personnes signent des pétitions, écrivent des lettres, des tweets ou des messages de solidarité en faveur de personnes dont les droits sont violés ou menacés. À travers nos actions, nous établissons un lien entre les victimes de violations et celles et ceux qui, partout dans le monde, sont prêts à se mobiliser pour elles. Cette solidarité est déterminante. Tout le monde peut y prendre part et chaque action compte. Tous les ans, la campagne des 10 jours pour signer prouve que la force du collectif a de réels impacts sur les vies des personnes. À partir du 4 décembre, nous vous donnons rendez-vous pendant 10 jours. Tout le monde peut participer. Il existe une palette d'actions qui permet de se mobiliser, où que l'on se trouve. Agir en ligne, écrire une lettre de soutien ou encore participer à une mobilisation près de chez vous en rencontrant une structure militante. En 2019, il y a eu 6,6 millions d'actions militantes qui ont été recensées dans le monde et au moins 111 000 personnes se sont mobilisées en France. Alors cette année, c'est un peu plus difficile pour le groupe de Dean puisque nous risquons de ne pas pouvoir aller à la médiathèque comme d'habitude. Donc on incite beaucoup les Dinois à aller sur le site amnesty.fr à partir du 4 décembre pour signer pour ces 10 cas. Et croyez-nous, on obtient des résultats. Je peux vous en citer par exemple deux de l'année dernière, deux victoires que nous avons obtenues grâce à nos signatures. Au Soudan du Sud, on avait le cas de Magé Mathiop Nyong, qui n'avait que 15 ans lorsqu'il avait été condamné à mort par pendaison. Le 14 juillet, la Cour d'appel du Soudan du Sud a décidé d'annuler la condamnation à mort du jeune Magé Mathiop Nyong, un combat qui a permis d'ouvrir le débat sur les réseaux sociaux autour de questions de la peine de mort contre les enfants. Nul doute que les milliers et les milliers de pétitions, de cartes, de lettres ont joué leur rôle dans cette annulation de condamnation à mort d'un mineur. On était intervenu aussi pour les jeunes de Krasina Rose au Canada, qui depuis 50 ans, il y avait du mercure qui empoisonnait les rivières et les poissons, poissons essentiels à la subsistance du peuple autochtone de Krasina Rose, dans le nord-ouest de l'Ontario au Canada. C'est à l'heure actuelle l'une des pires crises sanitaires jamais connues dans le pays. Nous sommes intervenus en leur faveur. Nous avons fait intervenir le public au niveau mondial, toujours. Et puis le 2 avril 2020, après des années d'attente, la construction d'un centre de soins à hauteur de 19,5 millions de dollars a été actée. Néanmoins, Amnesty International poursuit sa mobilisation aux côtés de la communauté de Krasina Rose pour veiller au bon déroulement du projet. Voilà deux exemples d'avancées grâce à nos lettres, nos signatures de pétition. Alors cette année, nous avons choisi 10 nouveaux cas, répartis un petit peu partout dans les continents. Le premier cas, Jani Silva, c'est une Colombienne. Elle défend la forêt amazonienne, les droits des paysans et la paix en Colombie. Et pour ça, elle risque sa vie. À 57 ans, cette femme joviale, au caractère bien trempé, a consacré sa vie à la défense de l'environnement et des petits paysans dans le sud de la Colombie. Avec l'Association pour le développement intégral et durable de la Perla Amazonica, elle lutte contre l'extraction pétrolière, l'accaparement des terres et la déforestation dans cette zone à la biodiversité hors du commun. Elle milite aussi pour la mise en œuvre des accords de paix signés dans le pays en 2016 qui prévoient des aides à la reconversion des champs de coca en culture légale. Voilà, et pour cette action, elle est menacée par les groupes armés qui font du trafic de stupéfiants. Menacée de mort en décembre 2017, elle est contrainte de quitter son domicile avec sa famille. Le danger persiste. À plusieurs reprises ces derniers mois, elle remarque une surveillance étroite et des mouvements suspects autour d'elle. Parce que je défends mon territoire, j'ai un pistolet sur la tempe. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de fuir ou de nous laisser gagner par la peur, dit-elle. Voilà, donc on va agir pour Jani Silva en Colombie. Nassima Al-Sada, Arabie Saoudite. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Au moment même où l'Arabie Saoudite mettait fin à l'interdiction honteuse faite aux femmes de conduire, le régime saoudien jetait en prison toutes celles qui s'étaient battues pendant des années pour obtenir ce droit. Une douzaine d'activistes de premier plan sont arrêtés entre mai et juillet 2018 parmi lesquels Nassima al-Sada. Révoltée par le fait que de nombreuses démarches quotidiennes soient soumises à l'autorisation d'un homme, elle écrivait « Pourquoi n'y a-t-il pas un âge auquel une femme est considérée comme une adulte responsable de ses décisions et de sa vie ?» Elle a même tenté en 2015 de se présenter aux élections municipales ouvertes aux femmes. Arrêtée en 2018 en raison de son travail de défenseur des droits humains, elle était maintenue en détention à l'isolement pendant un an. Aujourd'hui, elle n'est plus à l'isolement et a quelques contacts, trop rares, avec son avocat et ses proches. Accusée de communication avec des entités étrangères hostiles et d'atteinte à la morale et à l'ordre public, ce n'est qu'en juin 2019 que démarre son procès. Et les audiences sont constamment reportées, donc on va agir également pour elle. On va agir aussi pour Idriss Katak, qui a passé des années à enquêter sur les disparitions forcées au Pakistan. Et notamment, il a travaillé pour Amnesty International, hein, en nous donnant énormément d'informations sur ces disparitions forcées. Et puis, il en a été victime lui-même à son tour. C'est un cruel retournement de situation pour lui. Et Amnesty va se mobiliser, d'autant plus qu'on est extrêmement inquiet pour sa santé, parce qu'il est diabétique et donc particulièrement vulnérable au Covid-19. On ne sait pas où il est. Tout ce que savent ses proches, c'est qu'Idriss Katak est soupçonné d'avoir enfreint la loi sur les secrets d'État. S'il est jugé, ce sera par un tribunal militaire. Dans le plus grand secret, il risque une longue réclusion, voire la peine de mort. Les enlèvements de ce genre se multiplient au Pakistan depuis la fin des années 90, dans l'impunité la plus totale. Une façon de réduire au silence de nombreux opposants, journalistes, défenseurs des droits humains et autres voix critiques. Voilà, et sa fille, Talia, ne baisse pas les bras et elle dit « Nous méritons des réponses et papa mérite d'être protégé par la loi. » Donc on va agir aussi pour lui. On va agir pour Gustavo Gatica. C'est un Chilien. Alors ça va nous parler, bien sûr, parce qu'il a été blessé lors de violentes répressions des manifestations de 2019-2020 qu'il y a eu au Chili. Gustavo Gatica, lui, restera à jamais aveugle. En effet, lors d'une violente dispersion d'un rassemblement, un policier tire sur des manifestants à faible distance, à hauteur de visage. Des projectiles atteignent Gustavo Gatica aux yeux, c'est le trou noir. Un an plus tard, le jeune homme est d'un calme impressionnant. Il a vite appris à lire le braille, à réutiliser son téléphone et son ordinateur, se déplacer avec une canne et pour l'heure plus difficile. S'il ne fait plus de photos, c'était sa passion, il se consacre toujours à la musique. Dépourvu de colère, Gustavo Gatica ne souhaite que la justice. « J'ai donné mes yeux pour que le peuple puisse ouvrir les siens, » dit-il. Pour que son cas contribue à impulser une réforme de la police et que plus personne ne subisse ce qu'il a vécu. Alors nous allons agir pour lui avec des pétitions et une carte de soutien qui lui sera remise, qu'on enverra à Amnesty et Amnesty se chargera de lui remettre. Alors c'est une carte qui est écrite en braille, puisqu'il est devenu aveugle maintenant, et qui dit « Depuis la France, courage Gustavo, ta détermination dans la quête de justice nous inspire. » Voilà, on va agir pour lui. Et puis on va agir pour Peng Phyo Min du Myanmar. Peng Phyo Min a été traîné de procès en procès et condamné à 6 ans de prison juste pour un spectacle ridiculisant l'armée. Vous savez que les généraux birmans n'ont pas le sens de l'humour. Pour avoir pris part à ce spectacle, Peng Phyo Min est arrêté en avril 2019 à Yangon avec plusieurs autres comédiens. Le leader étudiant de 23 ans et sa troupe utilisent comme moyen d'expression le tangyat, un art de la scène typique des festivités du Nouvel An au Birman, à mi-chemin entre le slam, la danse et le théâtre. Le Myanmar, c'est le nouveau nom de la Birmanie. Hein. Ce sont les généraux qui ont donné ce nom, qui ont débaptisé leur pays. Dans leur dernière représentation, mimant des soldats ou portant l'uniforme, ils moquaient la soif de pouvoir et la corruption des militaires, ainsi que l'impunité dont ils bénéficient. L'armée affaiblit la transition démocratique du Myanmar, maintient le jeune homme. Nous sommes certes en prison, mais cela ne nous dissuadera pas d'exprimer nos opinions. Donc voilà, nous allons le soutenir. Il reste encore 5 cas dont je vais vous parler après une petite page de musique. On va écouter Grand Corps Malade.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Voilà, très beau texte de Grand Corps Malade, magnifique texte, hommage aux femmes. Voilà, donc on continue, je vais vous présenter les 5 autres cas de notre campagne 10 jours pour signer, hein, qui va débuter le 4 décembre. Et vous pourrez donc, chacun est invité à participer à cette campagne en allant sur le site amnesty.fr à partir du 4 décembre. On va parler maintenant d'un défenseur des droits humains du Burundi. Le Burundi, c'est un petit pays d'Afrique près du Rwanda. Un matin de juillet en 2017, des dizaines de policiers font irruption au domicile de Germain Rukuki à Bujumbura. Détenu au service national de renseignement, lieu réputé pour ses actes de torture, il est interrogé sans avocat avant d'être transféré à la prison surpeuplée de Ngozi. Ce défenseur des droits humains est condamné à 32 ans de prison sous une cascade d'accusations absurdes, allant d'atteinte à la sûreté de l'État à participation à un mouvement insurrectionnel, peine confirmée en appel en juillet 2019. En réalité, Germain est l'une des nombreuses victimes de l'impitoyable répression des voix critiques ces dernières années. Employé de l'Association des juristes catholiques du Burundi et président de l'association locale Djabutsa Tujan, il est mis en cause pour avoir travaillé avec la branche nationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT, association avec laquelle Amnesty travaille beaucoup, qui documentait les atteintes aux droits humains avant d'être interdite en 2016. Pour le régime, cette ONG ternissait l'image du pays. Donc on va intervenir pour ce Germain Rukuki, défenseur des droits humains au Burundi. On va intervenir aussi en Algérie, dans cette Algérie qui réclame la démocratie à corps et à cri. Le journalisme indépendant a un prix. Pour Khaled Drahremi, il s'élève à 2 ans de prison ferme. Quand l'Algérie descend dans la rue semaine après semaine pour réclamer la démocratie, impossible de manquer la haute silhouette de Khaled Drahremi, le journaliste et de tous les rassemblements. Depuis le début en février 2019, il couvre en direct la mobilisation, le Irak, ce qui lui vaut plusieurs interpellations et de multiples menaces, mais accroît encore sa popularité. Il a déjà une longue carrière derrière lui. On connaît sa rigueur. On se souvient de ses interviews télévisées sans concession. Pourquoi on doit s'abstenir de dire la vérité ? Dit-il souvent à son ami Nabila. Une phrase qui résume sa vocation. Courageuse dans un pays où la liberté de la presse ne cesse de reculer. Désormais directeur du site d'information Kasbah Tribune, correspondant de TV5 Monde et de Reporters sans frontières, il est très suivi sur les réseaux sociaux. C'en est trop pour le régime algérien. Puisqu'il ne veut pas entendre les avertissements, Drahremi est arrêté en mars 2020. Il sera condamné en appel à 2 ans de prison ferme pour incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national. Des accusations absurdes, encore une fois, et un verdict d'une rare sévérité en forme d'avertissement à ses collègues. Pour enfoncer le clou, le journaliste est traîné dans la boue. Au sommet de l'État, on insinue qu'il a trahi son pays, mais il en faudra plus pour le faire plier. À la barre, Khaled Drahremi apparaît très amaigri, mais toujours aussi combatif. Donc tous ensemble, on va le défendre. En Turquie, on va défendre là non pas une personne, mais tout un groupe. Le groupe Solidarité LGBTI de l'université d'Otto. Après avoir défié l'interdiction d'une marche des fiertés sur leur campus d'Ankara, Melik Balkan et Özgür Gür risquent 3 ans de prison. Même à l'université, en Turquie, on apprend à se taire ou à résister. Melik Balkan et Özgür Gür ont choisi la seconde option. À Ankara, ces étudiants en biologie animent Solidarité LGBTI, une association qui lutte contre les préjugés liés à l'orientation sexuelle et l'identité de genre au sein de l'Université technique du Moyen-Orient. Nous nous battons contre une société qui cherche à définir qui nous devons aimer, à régenter nos corps et notre sexualité. Face à une homophobie décomplexée, l'association multiplie les événements, projections de films, groupes de parole, rassemblements. Les étudiants doivent souvent jouer au chat et à la souris avec l'administration de l'université, qui leur coupe parfois l'électricité ou déclenche le système d'arrosage pour les chasser des pelouses. Mais les choses deviennent plus sérieuses en mai 2019, lorsque le recteur interdit la marche des fiertés au campus, organisée tous les ans depuis 2011. Solidarité décide de transformer l'événement en sitting. La police disperse la manifestation pacifique à coups de gaz lacrymogène et de ballons caoutchouc, puis interpelle toutes les personnes présentes, participants ou simples passants. Les deux jeunes sont entraînés en justice, ainsi que 16 autres étudiants et un professeur, pour avoir pris part à un rassemblement illégal et refusé de se disperser. Donc voilà, nous allons agir pour eux. On va également agir en Afrique du Sud pour demander justice. Justice pour 2 femmes victimes de féminicide. On en a parlé là le 25 novembre avec Femmes Solidaires à Digne. Le confinement a augmenté les violences envers les femmes et le nombre de féminicides en France est en augmentation importante, hein, puisque je ne me souviens plus exactement du nombre, mais c'est plus de 80 déjà et l'année n'est pas finie. Là, ici, c'est en Afrique du Sud. Plus de 3 ans après le meurtre sordide de Poppy Kwab et Bongeka Pungula, l'enquête est toujours au point mort. Un exemple criant de l'impunité dont bénéficient de trop nombreux auteurs de féminicides en Afrique du Sud. Voilà, pourtant, il y avait des moyens de mener une enquête, puisque des traces de sang avaient été retrouvées dans un taxi, des chauffeurs avaient été arrêtés. Mais faute de preuves, selon le magistrat, ils ont rapidement été remis en liberté. Et pour cause, la police n'a jamais examiné les empreintes digitales, ni rendu publiques les résultats des analyses de sang, si bien que les poursuites ont fini par être suspendues, en attendant une nouvelle enquête criminelle qui n'a jamais été menée. Les enquêteurs n'ont pas non plus pris la peine de vérifier si les jeunes femmes avaient été victimes de viol. Voilà, donc la situation des femmes est dramatique en Afrique du Sud. Et donc, on va intervenir sur ce pays pour demander que les enquêtes soient menées et afin de lutter contre l'impunité, parce que l'impunité entraîne de nouveaux féminicides en très grand nombre. Et puis, on va aussi soutenir 3 jeunes d'El Iblou dans l'île de Malte. En février 2019, un canot pneumatique tente de traverser la Méditerranée. Une 100aine de personnes sont à bord, dont un jeune Ivoirien de 15 ans et 2 Guinéens de 16 et 19 ans. Ils sont prêts à tout pour quitter l'enfer libyen, où migrants et demandeurs d'asile sont exposés à la torture, au viol, à l'exploitation et à l'esclavage. En difficulté, l'embarcation est secourue par un bateau pétrolier, le El Iblou. Celui-ci cherche à ramener les passagers en Libye, mais devant leur protestation, il finit par mettre le cap sur Malte. D'après de nombreux témoignages, les 3 garçons ont joué un rôle d'interprète et de médiateur, contribuant à calmer la situation. Pourtant, sitôt arrivés, ils sont accusés d'infractions graves, y compris au titre de la législation relative à la lutte contre le terrorisme, et incarcérés pendant de longs mois. Ni l'absence de preuves de violence, ni les risques encourus en Libye ne sont pris en compte. Remis en liberté conditionnelle, en attendant leur procès, les 3 jeunes risquent toujours la prison à vie. Donc on va soutenir ces 3 jeunes. Voilà, je vous ai présenté les 10 cas. Alors à partir du 4 décembre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Allez sur le site d'amnesty.fr, signez des pétitions, vous pouvez écrire une lettre aux autorités, envoyer du courrier à la personne défendue ou à ses proches, interpeller les autorités via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram, écrire un message de soutien sur les réseaux sociaux. Ça sera difficile cette année d'organiser un stand. Ça va se faire quand même au niveau des lycées. Vous savez que nous avons une antenne jeune au lycée Pierre-Gilles Lejeune. Et donc cette antenne jeune va présenter les 10 cas dont je vous ai parlé aux lycéens et va essayer de récolter un maximum de signatures au sein du lycée. Si nous avons l'autorisation, nous, groupe dinois, nous irons les aider une journée. Au Sacré-Cœur aussi, il y a 5 jeunes qui se sont engagés cette année pour aider Amnesty International. Nous sommes allés leur présenter, bien sûr, notre mouvement et nous leur parler des 10 jours pour signer. Et chacun a choisi 1 cas parmi les 10 cas pour bien se l'approprier, le présenter à leurs collègues lycéens et professeurs. Et pareil, avec l'autorisation de la direction, bien sûr, faire des actions en faveur de 5 des en faveur des cas qu'ils ont choisis. Voilà les actions que nous allons faire. On va mettre des affiches à la médiathèque, puisqu'il semble qu'on ne pourra pas faire signer là-bas. Et donc, vous aurez les 10 cas qui seront présentés à la médiathèque. Voilà, alors n'hésitez pas d'aller sur le site amnesty.fr à partir du 4 décembre. Et ces 10 cas, on va les suivre, je pense, longtemps, jusqu'à obtenir ce que l'on cherche, c'est-à-dire justice. On va terminer cette émission en chanson avec Jacques Brel, qui chante l'amour, parce que finalement, c'est le plus important.
Offrir en prière pour le mot de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pour j'ai malandrin de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour.
Vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 non,
on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Règne l'amour jusqu'à la fin des jours.